7h36 sur France Culture, l'heure du choix de la rédaction. Le marché iranien fait aujourd'hui figure d'Eldorado économique pour un grand nombre d'entreprises françaises. D'ailleurs, les voyages d'affaires se multiplient depuis la levée des sanctions internationales. Le secteur de l'automobile est ainsi très prisé par les grands constructeurs. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Olivier Denré.
Vous rentrez de Téhéran où vous avez accompagné une délégation de patrons. Vous avez pu constater que les grandes marques françaises sont d'ores et déjà en ordre de bataille.
Et oui, avec juste 1,6 million de voitures, pour 83 millions d'habitants, le marché iranien part de très loin. D'autant que les classes moyennes représentent la moitié de la population, une classe moyenne avide de consommation et surtout d'équipement. Contrairement à son rival PSA, Renault n'a pas quitté l'Iran pendant l'embargo, ce qui ne l'a pas empêché de devoir arrêter sa production pendant 7 mois, car une période, les sanctions concernaient aussi le marché automobile. Aujourd'hui, Renault, qui produit localement 3 véhicules, dont la Logan, que l'on connaît bien ici en Europe, espère bien doubler sa production pour atteindre les 100 000 unités d'ici la fin de l'année. Peyman Kargar, directeur de Renault et responsable Afrique-Moyen-Orient pour le constructeur.
La politique industrielle aujourd'hui de l'Iran est d'imposer aux constructeurs étrangers qui veulent venir ou qui veulent revenir en Iran d'investir localement, de créer des joint ventures et de faire des transferts de technologies et lancer des nouveaux modèles. C'est-à-dire que nous avons été les seuls à avoir mis en place des joint ventures, un investissement local, des modèles avec une logique plateforme et transfert de technologie, c'est-à-dire installer avec nos partenaires les standards internationaux de Renault. Pour les années à venir, nous allons investir plus de nouveau dans ce pays pour augmenter nos capacités industrielles d'une part, mais aussi notre présence dans le réseau de distribution.
Mais pour faire face à la demande locale et exporter leurs véhicules au Proche et au Moyen-Orient, les constructeurs vont devoir former et trouver de nouveaux sous-traitants. Certes, ils existent, mais ils ne sont pas assez nombreux. Surtout, avec l'embargo, il y a beaucoup de pièces contrefaites en grande partie en provenance de Chine, comme l'explique Bernard Julien, économiste au GERPISA, laboratoire spécialisé dans l'industrie automobile.
Les constructeurs y sont, comme d'habitude, contraints non seulement d'assembler sur place, mais aussi d'intégrer des contenus locaux extrêmement lourds. C'est une promesse qu'ils vont devoir faire aux autorités, mais ensuite, il va quand même falloir être capable de faire des voitures, quoi. Et pour ça, il faut que les contenus locaux correspondent à des pièces qui soient intégrables dans les véhicules, à des pièces de qualité. Et pour l'instant, il y a de grosses incertitudes. Tout ça a été perdu dans l'intervalle et aujourd'hui, il faut reconstituer une base de sous-traitance. Et la vitesse à laquelle ça va pouvoir se faire fait partie des négociations actuellement en cours entre, par exemple, les Français et les autorités.
Quant à PSA, qui a refusé toutes nos demandes d'interview malgré plusieurs semaines de sollicitations, après avoir dû quitter l'Iran à cause de son alliance avec l'américain General Motors en 2012, il effectue lui aussi son grand retour. Il a signé en janvier dernier un accord pour créer une société commune avec l'Iranien Iran Kodrou. Un retour qui va lui coûter très cher en monnaie, 430 millions d'euros au titre des indemnités pour être parti en 2012 et pour relancer sa production. Avant, du coup, il espère bien lui relancer sa production pour atteindre les 500 000 véhicules, un chiffre qu'il avait déjà avant 2012. Et d'autant qu'ici, dans les rues de Téhéran, on le constate, hein, les modèles iraniens jouissent d'une très bonne réputation.
Alors la fin des sanctions internationales ne veut pas dire que tout fonctionne aujourd'hui à merveille en Iran. En témoigne Hakim Kasmi, les nombreux barrières liées au système bancaire.
Et oui Olivier, même si depuis l'accord du 16 janvier, les transactions en euros sont autorisées, les grandes banques françaises restent encore traumatisées par l'amende record qu'a dû payer BNP Paribas, 9 milliards d'euros pour ne pas avoir respecté l'embargo. Les grandes entreprises doivent donc souvent faire appel à des banques européennes, voire des pays du Golfe. Résultat, eh bien, de nombreux contrats signés lors de la visite du président Rouhani, hein, qui sont pour l'instant que des lettres d'intention, en janvier dernier, pourraient être suspendus, voire annulés, comme nous l'explique Amir Ardavan Aslani, avocat franco-iranien. C'est notamment lui qui défend les intérêts de PSA ou encore de Vinci.
Le président Rouhani s'est fait élire sur une plateforme, l'autorisant, si vous voulez, à promettre aux Iraniens de mettre un terme à ces sanctions et d'ouvrir le pays à des investissements étrangers, améliorer au quotidien le sort des Iraniens. Mais dans la pratique aujourd'hui, l'Iran manque de devises, manque d'argent. Donc si ces investissements n'arrivent pas, ça risque de mettre à mal le gouvernement réformateur d'aujourd'hui face à l'opposition conservatrice qui ne manquera pas de sauter sur cette question-là pour pointer le doigt sur Rouhani et reprocher à Rouhani d'avoir abandonné la quête du nucléaire en échange de pas grand-chose.
En attendant, consciente de ces difficultés, eh bien, le gouvernement français reconnaît qu'il reste encore des efforts à faire de la part de nos grandes banques, mais aussi de la part du Trésor américain et aussi de l'OFAC, c'est l'organisme américain qui gère la bonne tenue des sanctions, qui lui aussi joue un grand rôle dans ces blocages bancaires.
Merci beaucoup Hakim Kasmi pour ce choix de la rédaction que l'on peut réécouter sur notre site franceculture.fr.